France Culture.
Bonjour Catherine Destivelle.
Bonjour Nima.
Hier, on a parlé des années 80 et du moment où l'escalade devient officiellement votre métier. En 86, vous avez 26 ans, vous êtes considérée comme une des meilleures grimpeuses du monde. Vous êtes médiatisée, sponsorisée, ce qui vous permet d'établir un certain nombre de records et d'aller grimper dans le monde entier. Je voudrais citer quelques voies que vous avez faites. Pas parce que c'est technique, mais parce qu'il y a une vraie poésie dans la manière de nommer les voies. Vous avez fait Fleur de rocaille, Rêve de papillon, Élixir de violence, La diagonale du fou. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu plus de ce que c'est que l'escalade, dans ses sensations. Et pour commencer, je voudrais qu'on parle du rocher, de ce que c'est vraiment que la sensation du rocher dans vos mains. Est-ce que vous pourriez parler du type de roche que vous préférez ?
J'aime beaucoup le grès. Le grès, parce que c'était mon jardin, quand j'étais enfant, Fontainebleau. À Fontainebleau, la roche, c'est du grès. Donc c'est une roche très douce, très ronde. Et puis il y a l'odeur aussi. L'odeur, alors c'est l'odeur de la bruyère, mais qui déteint sur la roche. Et en plus, à Fontainebleau, à l'époque, on grimpait avec du pof. Le pof, c'était quoi ? C'était de la colophane qu'on brisait dans un morceau de chiffon pour éviter de transpirer. Aujourd'hui, on utilise la magnésie. Et à l'époque, c'était de la colophane. Ça aussi, ça avait une odeur. Donc moi, mes souvenirs, c'est d'abord Fontainebleau et ses odeurs. Ensuite, le calcaire, j'aime beaucoup le calcaire aussi. Le calcaire, c'est un rocher beaucoup plus travaillé, plus sculpté, avec, il peut y avoir de tout, des gouttes d'eau, des fissures, des petites réglettes, voilà, ça j'aime bien. Je suis quelqu'un qui grimpe assez technique. Du coup, plus il y a de sculpture, mieux je me porte. Enfin, comparé à d'autres grimpeurs qui ont besoin de voir tout de suite la bonne prise. Moi, j'ai pas besoin trop de voir la bonne prise. Si je mets mes doigts même dans une petite prise, je me dis, oh, ça suffit, puis je monte avec. D'où le fait que je grimpe vite. Et en grimpant de cette façon-là, je me fatigue moins. Parce que je me satisfais de ce que je trouve, que je pense être bon. Et suffisamment bon, en tout cas, pour m'élever et aller chercher la prise au-dessus. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui grimpe de façon assez instinctive, de façon naturelle. Et ça a toujours été mon atout. Puis après, quand je faisais de la compétition, j'ai fait développer la force. Donc j'alliais à la fois la force et puis la technique. Et aujourd'hui, je grimpe toujours, mais j'ai plus que de la technique, j'ai plus de force. Mais, mais c'est normal, parce que je grimpe pas suffisamment, et voilà, et puis je fais autre chose. Mais le calcaire, il y a des parois incluses en dalle, il y a des parois verticales et des parois surplombantes. Donc,
et vous, qu'est-ce que vous préférez ?
À l'époque, j'aimais beaucoup les surplombs. J'étais forte en surplomb. Aujourd'hui, je préfère le vertical. Pas trop déversant parce que j'ai plus le physique. Donc, voilà, j'aime bien le truc technique. Alors, il y a le granit. Et le granit, ça se trouve beaucoup en montagne, avec des dalles, des fissures. Ouais, c'est souvent ça. Alors après, on peut trouver aussi du granit avec des espèces de, on appelle ça des knops, comme si c'était des cristaux qui sortaient et qui font des prises. C'est beau aussi. C'est encore très différent. C'est beaucoup plus franc, plus. Et là, on peut pas trop tricher. C'est-à-dire que les fissures, on les prend du bas jusqu'en haut et voilà, faut y aller quoi.
Vous grimpez vite et vous grimpez sans vous arrêter, comme si vous aviez une sorte d'appétit.
Oui, alors je grimpe sans m'arrêter, c'est pour pas être fatiguée. C'est pour la vraie raison, je crois qu'elle est là. Après, c'est naturel aussi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours grimpé comme ça. Un rocher, hop, mais un escalier, c'est pareil, je vais pas m'arrêter en cours de route. L'escalier, je le descends en courant et je le monte en courant, pareil. Donc c'est dans ma nature et c'est comme ça.
Et quand on préparait l'émission, vous m'avez dit, mes sœurs aussi, elles grimpent vite, on grimpe toutes vite. Comment ouais. Ça se fait ? C'est connecté à l'enfance
ou... J'allais dire ça aussi, que ben, en fait, mes sœurs et mon frère, on est rapides dès que ça devient vertical. on change de rythme. C'est rapide. Mais ça vient de ça doit venir de l'enfance. Je vois pas d'autres raisons. Mais bon voilà, et l'escalade c'est pareil. Bon alors tout le monde grimpe pas dans la famille, mais quand elle grimpe, ça va vite. Hein. Ouais.
Et dans les années 80, fin 80, vous avez voyagé dans le monde entier pour grimper. Je pense aux falaises de Bandiagara au Mali, mais vous avez aussi grimpé en Thaïlande, aux États-Unis. Votre attrait pour les voyages, est-ce que c'est aussi voir du pays, découvrir différents
types de roches ? L'escalade est intéressant par le fait que quand on va dans un pays grimper, on rencontre les gens d'une façon différente. Par exemple, je vais au Mali, j'ai envie de grimper une falaise, je suis obligée d'aller voir ces gens-là pour qu'ils m'aident à trouver l'endroit, est-ce que c'est autorisé, est-ce que si, est-ce que ça. Et du coup, ça fait des liens complètement différents. Et ils sont au Mali, je me souviens, ils étaient très contents de nous aider. Ils étaient ravis de nous faire ce cadeau-là, de nous expliquer, de nous raconter pourquoi il y a des bâtons dans la paroi, pourquoi il y a pourquoi ils mettent leur mort dans la falaise, comment ils font pour aller chercher le miel dans les falaises, enfin etc. Je trouve ça assez enrichissant de voyager de cette façon-là. Du coup, ce sont des vrais échanges et pas du tourisme pur. Pareil en Thaïlande où on a échangé avec des gars qui grimpaient aussi dans les falaises pour aller chercher des nids d'hirondelles. Et du coup, on fait partie de leur quotidien. À un moment donné, on partage des choses, on partage notre jeu aussi parce que c'est un jeu pour eux aussi de trouver la ligne qui va les mener dans la grotte où ils vont trouver les nids d'hirondelles. Je trouve ça très intéressant de voyager de cette façon-là.
Vous parliez aussi de chercher la ligne. C'est-à-dire que quand on grimpe, on cherche le passage qu'on va emprunter. Et ça, c'est une des choses qui vous plaît beaucoup quand vous grimpez, de trouver les passages ou de trouver... Il y a comme un parcours à inventer, quoi, un peu.
Ouais, alors trouver la ligne, c'est trouver le passage le plus logique, le plus naturel pour parvenir au sommet. Alors, c'est ce qu'on appelle de la lecture. Alors, il y a la lecture des grandes parois, puis il y a la lecture d'une petite paroi. Même les compétiteurs aujourd'hui, ils regardent le mur avant de grimper pour repérer ils lisent les prises. Et ils sont en train d'imaginer les mouvements qu'ils vont faire, même à 15 mètres de haut, quoi. Et nous, en alpinisme aussi, on essaye de trouver la ligne la plus belle et puis la plus logique.
Oui, la plus belle.
la plus belle. Par exemple, s'il y a une fissure qui part du bas jusqu'en haut, c'est magnifique. Ou si il y a une belle dalle, on évite de faire des traversées, par exemple. C'est pas droit au but, quoi.
Mais il y a une recherche de beauté, en fait.
On essaye d'avoir des beaux mouvements, puis que la ligne soit jolie, quoi. Que ce soit esthétique.
Mais pour vous, même quand vous n'êtes pas filmé, vous essayez de...
Bien sûr, avant tout pour nous, on est rarement filmé quand même. Ça arrive, mais c'est pas tous les jours, donc c'est une fois tous les... je sais pas combien. Mais on fait pas ça pour ça, on fait pour nous. Pour nous, et c'est un jeu qui est prenant. Alors, moi je vois aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui grimpent dans les villes, dans les salles. Et je m'aperçois que ça leur fait beaucoup de bien. Tous ceux qui en parlent, ils deviennent accros. Pourquoi il devient accro ? Je pense aussi que c'est une activité qui empêche de penser. On ne pense qu'à ce qu'on fait. Et du coup, c'est très agréable parce que il n'y a pas beaucoup d'activités qui offrent ça. Le fait de ne penser qu'à ce qu'on fait. Et aussi, c'est une activité où on partage avec l'autre, mais on partage sur le mouvement. On ne va pas parler d'autre chose. On va parler de ce qu'on est en train d'essayer de réaliser. Comment je vais grimper là ? Alors l'autre, il va dire, mais prends cette prise-là en inversé, fais ci, fais ça. Je me souviens, quand j'étais gamine à Fontainebleau, je pense que c'est ça qui me plaisait. C'est-à-dire qu'on ne me posait pas de questions sur moi. On parlait que de l'escalade, que du rocher, comment on va aller faire le mouvement. Et je pense que dans les salles d'escalade, ce que trouvent les gens aujourd'hui, c'est d'abord, ils font un peu de mouvement, de fitness et tout. Mais en même temps, c'est une activité qui empêche de penser. Il y en a une qui m'a même dit, avant je faisais de la méditation, mais j'en fais plus, je vais grimper. Et ça me fait pareil. On est dans l'action et on pense plus.
Oui, vous êtes complètement absorbé par le moment présent.
Complètement, et ça, c'est ce que donne l'escalade. Quel que soit le niveau, même si c'est facile, on est absorbé par l'action. Mmh. Et c'est rare d'avoir une activité qui offre ça.
Il y a une activité que vous avez pratiquée qui, pour le coup, il ne faut surtout pas penser à autre chose. Il faut être très concentré, c'est le solo. C'est quelque chose que vous faites depuis le début de votre carrière. Il faut expliquer ce que c'est le solo, c'est grimper donc seul, totalement seul, donc sans partenaire, sans corde ni aucune autre forme d'assurage. C'est la forme d'escalade la plus pure. parce que vous êtes totalement seul sur le rocher, mais c'est aussi la forme la plus extrême parce que elle permet pas la chute. Je sais que c'est un sujet où on vous a beaucoup posé la question, Catherine Destivelle, et on a beaucoup laissé penser que c'était une pratique un peu suicidaire. Et moi, je pense pas du tout que ce soit que vous ayez un attrait pour le morbide, mais je pense qu'il faut qu'on essaye d'expliquer pourquoi, Catherine Destivelle, vous aimez grimper sans corde.
Alors, j'aimais grimper sans corde. En fait, j'ai commencé très jeune à grimper sans corde. Déjà sur les rochers, moi j'étais petite, et du coup, en taille, hein. Et du coup, les rochers étaient grands, déjà, j'avais pas le droit de tomber. J'ai appris à contrôler donc mes émotions, et puis à faire le vide dans ma tête pour assurer chaque mouvement. Et après, quand je suis rentrée au cadet, on a été en falaise. Et les falaises, il n'y avait pas assez de moniteurs pour tout le monde. Et du coup, j'ai commencé à grimper un peu loin des regards, parce que je me serais fait engueuler, mais à grimper en solo, sans assurance, sur des parois qui faisaient 10 mètres, et dans les trucs faciles, hein, très faciles. J'ai appris très jeune à contrôler mes émotions.
Mais qui vous a appris ? Comment vous avez appris ?
Personne. J'étais là, je savais grimper, j'y allais, en sachant que je pouvais redescendre, désescalader si ça allait pas. Hein. C'est pas tête brûlée. Je maîtrisais la difficulté. En fait, ce sont des moments où on se sent très fort parce que on fait des choses. On n'a pas le droit de tomber. On est tellement concentré que tout paraît facile et fluide. Alors, faut choisir. Enfin, moi, je choisissais les voies qui étaient à ma portée avec beaucoup de marge de sécurité. C'est-à-dire que souvent, je donne cet exemple, c'est comme si quelqu'un grimpait une échelle sans corde. C'est faisable, hein, une longue échelle. Si on regarde pas en bas, on se fait pas peur. On monte, on monte, on monte, et on y arrive. Je suis dans cet état-là. C'est-à-dire quand je grimpe en solo, mais du coup, c'est assez jouissif parce que ça paraît facile. Enfin, ça paraît comme on est bien concentré et les mouvements s'enchaînent bien. Et j'ai jamais eu la peur qui me tétanise, qui m'empêche de faire des bons mouvements. J'ai toujours eu beaucoup de marge. Donc voilà.
Mais ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de moment où vous avez un moment de panique ?
Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Et heureusement.
Vous avez beaucoup dit, il faut que j'ai de la marge. Avoir de la marge, ça veut dire que ce que vous avez grimpé en solo, vous avez grimpé très en dessous de votre niveau ?
Oui, à toujours. Toujours, ouais, toujours. Trois niveaux en dessous. Et ouais, j'aime pas avoir peur. J'aime pas me faire peur, j'aime bien contrôler tout, et j'aime bien, quand je grimpe, me sentir ce qui m'amuse, enfin, c'est ce que j'aime, c'est ce sentiment d'invulnérabilité presque, de surpuissance. je courrais là-dedans sans problème, quoi. Mais là, étant solo, j'ai pas le droit de tomber, donc je m'applique, et là, c'est beau, quoi.
C'est beau.
Ouais, les mouvements sont beaux. Parce que je grimpe bien, quoi. Ouais.
C'est là où vous vous sentez la meilleure, finalement. C'est quand vous grimpez et que vous n'avez pas le droit de tomber et que vous êtes toute seule.
Et que je suis toute seule. Non, il faut surtout pas donner ce spectacle aux gens. Parce que de regarder quelqu'un qui grimpe en solo, c'est pas très agréable.
Bah, c'est effrayant.
C'est effrayant. C'est effrayant. C'est pas un cadeau, quoi. Du coup, je ne vais pas aller leur dire « Viens me regarder ». Je vais faire ça en solo. Non.
Il y a un film que vous avez fait, une ascension qui m'a beaucoup marquée, qui est le Man of Hoy en Écosse.
Ouais.
Parce que vous grimpez donc en solo, c'est une sorte de tour un peu au milieu de la mer. Oui, en grès où il y a des oiseaux. Enfin, c'est humide. On a l'impression que c'est glissant. Et vous grimpez, vous êtes enceinte, et il y a votre compagnon de l'époque qui vous regarde. Et il est interrogé, on lui demande « Mais vous avez pas peur ?» Et lui a l'air incroyablement confiant et dit « Non, bah si elle grimpe, c'est qu'elle peut le faire. » C'est incroyable de voir cette confiance que vous avez et que lui avait aussi.
Oui, mais ce qu'avaient mes parents aussi d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils avaient confiance en moi. Ouais, alors j'étais enceinte de 3 mois, faut pas non plus. J'ai arrêté de grimper assez tôt, à 6 mois ou 7 mois, j'ai arrêté parce que d'abord je pouvais plus mettre un baudrier. Et puis voilà, j'ai envie d'avoir un enfant bien, quoi. Mais non, il y a 3 mois, personne n'avait vu. Si je l'avais pas dit, personne l'aurait vu. Enfin, donc du coup, j'ai pas. Voilà. Et comme je savais que j'allais pas prendre de risques, c'est un rocher, ouais, bizarre, mais c'était pas difficile, hein. C'était du 5, peut-être. Fallait juste un petit peu faire attention aux oiseaux, là, parce que il y avait des espèces de mouettes, là, qui te crachent dessus, si tu les surprends. Mais voilà, le seul problème, c'était ça. Mais non, franchement, j'ai pas pris de risque.
Il n'y a aucun moment dans votre carrière où vous avez eu vraiment très peur. La chute, le vide, c'est un peu omniprésent quand même quand on grimpe, non?
Ouais, alors la peur, c'est quand il y a une situation un peu imprévue qui arrive. Genre en Himalaya, une fois, il y avait des chutes de pierres dans un couloir. Là, j'ai eu peur parce que c'était la roulette russe, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû se trouver aussi tard dans ce couloir. Il y avait des chutes de pierres qui arrivaient. Et du coup, c'est une grande chance que je n'ai pas été touchée. Personne n'a été touché d'ailleurs. Donc là, on a peur, forcément, parce qu'on a fait une erreur. C'était une erreur, on aurait pu le payer très cher. Et puis, en Antarctique, j'ai eu mon accident. Sur le coup, je me suis fait une fracture ouverte au sommet d'une montagne. C'était moyen, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de secours. Donc là, c'est pas la peur, en fait, pour être honnête. J'ai eu peur en tombant, en me disant « Oh là là, merde, 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 merde ». Puis une fois que la chute est enrayée, puis qu'on ne fait que constater les dégâts, bon, c'est plus de la peur, c'est du juste « Ah, comment je vais faire là maintenant ?» Voilà, c'est la peur est passée. C'est la peur, c'est qu'est-ce qui va arriver ? Une fois que c'est arrivé, bon, on n'a plus qu'à gérer.
Oui, ça veut dire que la peur, mais même avant, par exemple, de vous lancer dans une ascension en solo, vous n'avez pas peur avant ?
J'ai toujours peur avant. Et tant que j'ai peur, j'y vais pas. En fait, je me prépare pour les grandes ascensions. Je suis vraiment beaucoup préparée pour avoir énormément de marge et ne plus avoir d'appréhension avant de partir. C'est-à-dire que tant que j'ai un peu d'appréhension, je pars pas. Mais dès que je mets les mots sur la peur, c'est-à-dire que c'est important de savoir pourquoi on a peur et quelle appréhension j'ai et travailler cette appréhension pour justement se dire maintenant j'ai le niveau nécessaire pour y arriver sans me faire peur et du coup sans prendre de risques. Je me souviens une fois, j'avais été, il y a un gars qui voulait faire un film, c'était dans les Drues, et à l'époque on prenait l'hélico pour un oui ou pour un non, il voulait que je vienne dans l'hélico avec lui pour repérer la voie, il voulait savoir où j'allais passer. Et je me suis fait une peur dingue parce que j'ai vu la paroi de loin et je me suis dit, oh là là, c'est raide et tout. Et j'ai eu très très peur. Et je devais y aller le lendemain parce qu'ils annonçaient beau temps et tout. Et je suis revenue terrorisée et il a fallu que je me fasse un exercice mental pour me projeter dans la voie elle-même. C'est-à-dire me souvenir que, en fait, quand je suis sur le rocher, tout va bien, quoi. Je suis bien, que tout est normal et que je serais forcément à l'aise. Mais cette vision de l'extérieur m'avait paniqué. Et donc, quand je fais les solos, j'ai besoin de me projeter mentalement dans la voie que je vais faire. Et là, je m'aperçois, mon mental me dit, mais c'est facile. Et c'est vrai que c'est facile. Parce que c'est mon élément, que je sais bouger là-dedans. Et comme je choisis toujours des choses où j'ai beaucoup de marge, voilà, la peur disparaît.
En 1990, donc c'est le moment où vous arrêtez la compétition et vous revenez un peu à votre premier amour qui est la montagne pour devenir, je vous cite, une vraie alpiniste. Qu'est-ce que c'est la différence entre une grimpeuse de rocher et une alpiniste ?
Alors, grimpeuse de rocher, elle reste que sur le rocher. Le rocher, c'est une matière qui ne bouge pas. On grimpe avec les mains, avec les pieds. On peut mettre des pitons, on peut mettre des freins, des coinceurs, enfin, on s'assure. Et la neige et la glace sont des matières qui bougent. Ça peut même fondre en une heure ou deux, selon les conditions. Et c'est une matière que je connaissais pas bien, que je connais toujours pas bien d'ailleurs, mais qui dit qu'il peut connaître cette matière ? En fait, c'est une matière que je trouve dangereuse, moi. parce que bon, il y a les avalanches, la neige, la glace, bah il y a glace et glace. Bon, alors après, si on prend de la bonne glace qui colle bien au rocher, ça va, mais quand on prend des stalactites et qu'on grimpe dessus, ça devient encore un autre jeu. Voilà, moi je suis plus une rochassière que quelqu'un qui fait du mix. Alors le mix, c'est rocher, glace, glace, neige, tout mélangé. Bon, après j'ai appris, je voulais devenir une vraie alpiniste. Pour devenir une vraie alpiniste, je me suis dit, il faut que je fasse des faces mixtes. Face mixte, c'était comme la face nord de l'Eiger, par exemple. Mmh. Face nord de l'Eiger, il y avait de la glace, la neige, du rocher. Et je me suis entraînée pour ça, pour essayer d'appréhender tous ces différents terrains. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai estimé que je maîtrisais à peu près. Je dis à peu près, parce que j'étais quand même pas super à l'aise. Je préférais grandement passer sur du rocher. Et quand j'ai fait la face nord de l'Eiger, j'avoue que j'étais contente.
On va y venir, c'est le quatrième épisode de notre série. Vous disiez, je combats un peu la peur par la préparation. Il y a quelqu'un avec qui vous allez vous préparer, c'est Jeff Lowe, qui lui connaît bien la glace. Est-ce que vous pouvez parler un peu de qui était Jeff Lowe et de ce qu'il vous a appris en fait ?
Alors, ma rencontre avec Jeff Lowe a été décisive pour la suite de ma carrière. En fait, Jeff est américain. C'est lui qui avait organisé les deux compétitions d'escalade internationales qui ont eu lieu aux États-Unis. Et il se trouve que j'ai eu le temps d'échanger avec lui en disant « Moi, j'aimerais beaucoup retourner à la montagne et tout. » Lui, c'est un alpiniste très fort en glace. Et qui rêvait lui aussi de retourner en montagne. Et il m'a dit, si tu veux, l'année prochaine, j'ai un projet d'expédition. Comme il voulait faire un film, j'aurais besoin de quelqu'un d'Europe pour grimper avec moi, pour les finances, en fait, chercher des finances. Et du coup, un Européen, c'était bien. Et que je sois une femme en plus, ça encore mieux. Du coup, il m'a proposé ça. Je dis, oh, génial, ce serait un bon tremplin pour repartir dans la montagne. Et donc l'année suivante, je retourne à la compétition. Et là, il me dit, bah, c'est OK, voilà, on part à tel jour. D'ailleurs, j'ai dit, bah, banco. Bon, alors l'auteur n'était pas tout à fait d'accord, mais voilà.
Pardon, qui était votre compagnon de l'époque.
Il n'a pas dit non. Et de toute façon, bon, voilà, j'avais tellement envie. J'y suis allée. Et puis voilà. Et donc, ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai vu que, franchement, j'étais bien en montagne. C'était mon élément. Plus Jeff, c'est son élément aussi. Donc, il n'était pas du tout stressé. Moi non plus. Du coup, ça m'a permis de voir que j'étais comme à la maison, quoi. Dans la montagne, et que j'étais à l'aise. Et puis, du coup, je me suis un peu confiée à lui en lui parlant de mes projets que j'avais, qui étaient ambitieux hein, par rapport au niveau que j'avais à cette époque-là. Mais il ne m'a pas du tout dissuadée. Et ça m'a donné confiance pour rebondir. Et puis, dès que je suis rentrée de cette expédition-là, de me préparer à faire mes projets des Alpes.
Et c'était quoi, alors, ces projets des Alpes?
Alors, je voulais déjà grimper en solo le pilier Bonatti dans les Drues. Sans corde, un pilier qui fait 800 mètres. Et il m'a dit, mais vas-y. Alors moi, je n'osais pas le dire à qui que ce soit, parce que qui aurait compris, à part lui. Et il m'a encouragée, donc j'ai fait mon pilier, j'ai mis 4 heures. Puis après, j'ai vu que la presse m'avait comparé avec Walter Bonatti, qui était l'alpiniste qui avait ouvert cet itinéraire, qui avait mis à l'époque 6 jours, mais il l'avait ouvert, ça n'avait rien à voir, enfin bref. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, quand même, les journalistes, ils comprennent rien, enfin, ils savent pas. Mais en même temps, ça fait tilt dans mon esprit en me disant, mais est-ce que moi, je serais capable d'ouvrir une voie toute seule ? D'où l'idée d'ouvrir une voie dans les Drues aussi. Voilà, je me suis préparée à cette ascension pendant un an pour y aller toute seule. C'est né comme ça. Puis après, je voulais aller dans la face nord de l'Eiger. Pareil, il ne m'a pas découragée. Mais ça, par contre, la glace et la neige, j'étais nulle. Il a fallu que je m'entraîne. Donc, je suis allée aux États-Unis avec lui, au Canada. J'ai fait pas mal de glace avec lui pour apprendre.
Et lui, c'est un apprentissage technique ou c'est une préparation mentale? Qu'est-ce qu'il vous a appris?
Non, juste technique. C'est aller sur la glace, comment... planter les piolets, on grimpait en réversible, voilà. Et puis après, faut en manger, quoi. Faut en faire souvent pour se sentir à l'aise. En plus de regarder quelqu'un qui grimpe super bien, c'était le meilleur grimpeur de glace qui existait dans le monde, hein, pratiquement Jeff. Il a ouvert plein de trucs, des belles parois en glace. Bon, voilà, quand je grimpais avec lui, tout semblait naturel, quoi.
Donc, vous avez dans un coin de la tête de faire donc ces grandes faces nord des Alpes en hiver et en solitaire, qui va devenir un peu le grand projet de votre carrière et vous faire devenir, comme vous dites, une vraie alpiniste. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce projet ? Est-ce que ça a représenté pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez rêvé ?
Bah, en fait, le problème, c'est que quand j'ai fait les Dru, que ce soit le Piebonacci en solo ou ouvrir ma nouvelle voie dans les Dru, les alpinistes étaient un peu sceptiques. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans les montagnes? Personne ne savait que j'avais fait beaucoup de montagnes avant, en fait. Ils pensaient que je débarquais de la compétition et que, boum, je me faisais une paroi de montagne, quoi. Et j'ai senti ce malaise. Ça m'a beaucoup dérangée. Et je trouvais effectivement que c'était pas... J'étais une vraie rochassière, mais j'avais aussi fait beaucoup de montagnes quand même. Mais ça, ils le savaient pas. Et je me suis dit, bah... J'aurais été un garçon ou une fille, c'était exactement pareil. Quelqu'un qui vient de la compétition en rocher et qui vient en montagne, ça aurait choqué pareil. C'est pas parce que j'étais une femme, c'est juste parce que je venais tout d'un coup marcher sur les plates-bandes des alpinistes, qui à l'époque ne faisaient pas de compétition. Et là, je me suis dit, bah voilà, si je veux me faire admettre comme alpiniste, il faut que je fasse du mixte. Puis j'en rêvais aussi. Enfin, c'était Jeff Lowe était un beau modèle, donc j'avais envie d'être capable aussi.
Et de prouver un peu au milieu de l'alpinisme.
Ouais, un peu prouver, ouais, tout à fait, que j'étais capable et que j'étais pas une débutante et que j'avais fait déjà les faces nord quand j'étais gamine. À 16 ans, 17 ans, j'avais fait la face nord de l'Aile Froide, la face nord de l'Holland, j'avais fait quand même des trucs. Mais personne ne le savait, parce qu'à l'époque, on ne le disait pas, puis c'est tout. Et là, donc je me suis dit, bah, je vais faire la face nord de Lager, mais pas encordée, en plus, en solo. Et à vue. À vue, ça veut dire sans repérage. Et pour que ça fasse une première et puis que ce soit beau, quoi. Enfin, que ce soit bien fait, pas de triche. Et voilà, je me suis préparée pour ça et je l'ai réussi.
Merci Catherine Destivelle. Demain, on va se retrouver pour notre quatrième épisode. On va consacrer l'épisode entier à l'ascension de l'Eiger, qui est une montagne en Suisse. C'est une montagne qui est particulièrement tueuse. C'est cette ascension en particulier qui va faire de vous, selon vos mots, une vraie alpiniste. C'était À Voix Nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Alexandra Bergel, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Nima Cartier, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.